On va déguster sur France Inter.
Happy Thanksgiving, Antoine Gerbel, on peut trinquer?
On peut trinquer, bien
allons-y.
Sûr. En avance. Alors avant, bien évidemment, de parler de que boire avec le repas de Thanksgiving, très riche, très complet, donc on aura énormément de choix, il faut quand même dire un mot sur une polémique.
Eh oui.
Qui est arrivée ces jours-ci.
Auquel on ne peut pas avoir échappé.
On ne peut pas avoir échappé, c'est ce fameux tweet de Donald Trump quand il est rentré aux États-Unis, très énervé, on le sait bien, contre le président Macron et les Français. Donc il a fait un tweet disant en gros que ils sont bien sympathiques, ces Français, ils font de bon vin, mais nous aussi, Américains, on fait de très bon vin. Et puis, j'ai regardé quand même, nos vins américains ne sont absolument pas présents en France, alors que les vins français rayonnent et ils sont vendus surtout tellement peu cher, ces vins français aux États-Unis, il n'y a pas de taxes. Alors là où il est malin, ce cher Donald, c'est que effectivement, si on regarde bien, il a raison, il y a moins de taxes aujourd'hui sur les vins français importés aux États-Unis que sur les vins américains. Mais alors, moins de quoi on parle? C'est-à-dire que pour les vins à 13 degrés, parce que c'est un rapport avec le contenant et le degré, on parle de 5 centimes, 5 cents d'écart entre l'importation, les différentes importations qu'on importe en France ou aux États-Unis.
Par bouteille.
Par bouteille. Quand on voit le prix moyen du vin, que ce soit même en France aujourd'hui, les prix ont énormément augmenté, ou même aux États-Unis, on parle vraiment de pas grand-chose. Et quand on parle des vins de plus de 14 degrés, ce qui est le cas des vins américains, puisqu'ils sont assez riches, c'est un centime d'écart. Donc c'est vraiment tout petit. Mais il y a autre chose derrière, c'est qu'il faut savoir que nous, les vins américains, chez nous, ça représente 1% de la consommation des vins étrangers. Pas des vins français, des vins étrangers. Donc rien du tout. Alors que nous, on pèse énormément aux États-Unis, c'est notre troisième poste d'importation, d'exportation, puisque c'est 1,7 milliard juste derrière l'aéronautique et la pharmacie.
Donc, je crois même que les Américains sont nos premiers clients.
Et c'est bien évidemment nos premiers clients aujourd'hui. Alors bon, c'est sympa parce que il met un petit coup comme ça. Puis il y a une troisième lecture qu'il faut voir, c'est que le troisième fils de Donald Trump, Eric, de quoi il s'occupe? Il s'occupe d'un domaine viticole en Virginie, bien évidemment. Une grosse winery type Disneyland, comme on aime beaucoup aux États-Unis, qui fait énormément de visites. Donc, on vend plus autant de parapluies que de bouteilles de vin et de t-shirts. Mais c'est très populaire. Et donc, il a fait d'ailleurs, pendant sa campagne présidentielle, il a beaucoup parlé du vin dans ce sens-là. Donc, il voudrait bien également qu'on découvre son vin. Bon, les critiques américains sont terribles avec le vin de Donald Trump. Ils le qualifient, je vous dis, mais de moins que rien. Pour eux, c'est... Il y en a un qui dit c'est de l'eau, du sucre et peut-être un peu d'alcool. Donc vous voyez, on est vraiment très très méchant.
Et donc, j'ai suivi l'affaire sur Twitter. Je ne sais pas si c'est votre cas, Kathleen, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup d'American Wine Journalists qui expliquaient juste, bon, les Français ne boivent pas tellement de vin américain. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'en boire? Enfin, je ne dis pas qu'il y a évidemment de très bons vins aux États-Unis. Oui. On est plutôt bien doté en matière de vin en France et on a envie de boire ces vins, tout simplement, non?
Bah, je pense. Mais en effet, oui, on a un peu mauvaise presse avec le vin américain, parce que à la fois, il est très riche, comme vous avez dit. En fait, 14 degrés, ça fait des vins quand même hyper charcutés.
Assez corpulents, oui.
Assez corpulents. Mais il y en a des très bons. Ça, c'est
tout à fait. Alors, bien évidemment. Alors, on est chauvin, c'est évident. C'est très, on boit plus de vins italiens et espagnols en France. C'est des marchés qui se développent quand même plutôt bien. Mais il faut savoir que les bons vins américains sont très chers. Vous savez que la Californie, si on considère la Californie comme Bordeaux, Bourgogne, c'est le lieu au monde où il y a le plus de marques vendues à plus de $150. Donc, c'est pas les grands châteaux Bordeaux les plus chers. Là, on va dire la concentration de vins chers, c'est la Californie. Et ça correspond au train de vie de la Californie. On met beaucoup plus d'argent dans la style life et notamment dans les vins. Et puis, je rappelle une chose, c'est que dans le milieu des années 90, le numéro un des vins américains, c'est le groupe Gallo, a essayé de s'implanter en France. Je suis parti aux États-Unis enquêter pour voir qu'est-ce qu'ils préparaient dans la Central Valley, dans la Sonoma. Et ils sont arrivés en grande surface avec beaucoup de moyens, ils ont mis beaucoup d'argent, et ils sont repartis 2 ans plus tard parce que ça n'a pas marché. Le Zinfandel, qui était le cépage principalement mis en avant, eh ben on a le Carignan, on a le Grenache. Nous en France, on a même des vins même espagnols qui sont très proches, qui sont beaucoup moins chers. Alors j'ai lu que Gallo revenait aujourd'hui au Gallo, sans jeu de mots, avec d'autres moyens. Avec, ils sont malins, c'est-à-dire maintenant ils ont créé d'autres marques beaucoup plus qui sentent le terroir, qui rappellent un peu la tradition viticole qu'on aime bien en France. Et donc on va revoir très bientôt des vins américains.
Aux États-Unis, on fait du vin en Californie. Vous disiez qu'il était dans le Maryland, non?
Dans l'Oregon.
Dans l'Oregon, alors partout.
L'Oregon principalement, il y en a au Texas, il y en a à peu près dans tous les états aujourd'hui. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est la côte Est. Mais surtout, en Virginie notamment, parce que c'est un spot touristique très important et que c'est vraiment un voyage touristique pour les Américains. Ils achètent un peu du vin, mais le circuit d'un domaine viticole américain, les Français d'ailleurs devraient en prendre exemple pour notamment ce qu'on appelle le no-tourisme.
Chapitre de cette polémique sur les vins américains fermé.
Refermé. Et alors, c'est l'occasion de parler de que boire avec la dinde, bien évidemment. Donc, cette volaille, elle est, on l'aime tout petit parce qu'elle est très tendre, hein. On a quand même un rapport vraiment très, très délicat avec cette texture. Il y a plein de choses, hein. Bon, quand on regarde ce que boivent les Américains, donc, initialement, ils parlent de jus de pomme un peu fermenté, début de fermentation. Ça correspond à la saison. On a à l'automne. Et étonnamment, par rapport à cette saison, il y a le Beaujolais nouveau aussi qui arrive aux États-Unis. Donc, on voit souvent dans les restaurants le menu de Thanksgiving associé avec le Beaujolais nouveau.
Et bon, voilà, l'amitié franco-américaine célébrée dans le verre.
Voilà, mais sinon, on trouve de tout. On pourrait dire qu'on pourrait mettre un blanc, mais ça dépend. Si on est sur une farce comme la vôtre, qui est très puissante, qui est quand même dans les associations sucrées-salées, on pourrait prendre un blanc en accord parfait. Mais comme moi, j'ai déjà assisté à un repas de Thanksgiving, il y a plein de choses sur la table. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de desserts. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt prendre un vin un peu riche, et donc, moi, je suis parti sur autre chose. Une version française, et ça me donne l'occasion de parler de Kéran, qui est un super Côte du Rhône, qui est devenu cru de la vallée du Rhône. J'ai fait une belle dégustation il y a quelques jours autour de ce cru, et je pensais à notre émission, je me dis, mais ce côté fin, légèrement sucré, un peu réglissé, mentholé, ça va bien convenir. Alors, je vous ai amené un vin de Kéran, aujourd'hui, d'un domaine pas très connu, parce qu'il y a quelques stars. Marcel Richaud, ça vous dit quelque chose?
Évidemment.
Le Richard Gir de la vallée du Rhône, comme on l'appelle. Mais il y a aussi le domaine des Escaravailles, le domaine de l'Oratoire Saint-Martin. Il y a 4-5 très beaux domaines. Kéran a eu des problèmes de quitter cette famille des Côtes du Rhône village pour devenir vraiment cru. Bon, on va passer, c'est des histoires un peu politiques. Aujourd'hui, ils arrivent sur le marché. C'est entre 8 et 15 euros. Donc le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Bien plus intéressant que le grand voisin Châteauneuf du Pape ou même Gigondas, le petit voisin à l'est. Alors je vous ai amené le domaine Amadieu. C'est pas encore très connu, c'est bio, c'est biodynamique, c'est fait avec une immense précision. C'est un Jurassien qui est arrivé il y a 7 ans dans le village, ingénieur agronome, il a travaillé dans le comté longtemps, après il a travaillé dans la grande distribution sur la logistique et puis il s'est dit, ma tête est vraiment pas faite pour ça, je suis un homme de la terre et quand on le rencontre, faut pas regarder ses yeux, il a de beaux yeux, mais surtout ses mains sont vraiment les mains d'un grand vigneron et il fait, moi j'aime ces vins où vous pensez bien évidemment sud et vous fait rêver nord en fin de bouche. C'est-à-dire quand il y a vraiment une énergie, une fraîcheur, une délicatesse. Ça coûte, ça m'était l'occasion. J'ai traversé la rue ce matin en face de la maison de la radio. J'ai découvert les petits domaines. C'est une cave qui est rue de Grenelle.
Bien sûr.
208. Isabelle, la Renaudie, elle est toute seule dans cette cave. C'est une femme charmante et elle a une sélection parfaite. Elle me dit, je l'appelle. Elle dit, oui, j'adore Kéran et j'ai le vin. Elle nous a présenté la cuvée Garrigue. Il y a une cuvée encore moins chère qui est la cuvée Vieille Vigne.
On est autour de quel prix? Et là, vous parlez d'un prix caviste, hein?
Prix caviste, entre 12 et 14 euros.
Très bien, vous nous en rappelez les références?
Alors, Domaine des Amadieu, Kéran, cuvée Garrigue, et le vigneron s'appelle Yves Auxerre.